Depuis le Paléolithique, les hommes et les femmes d'Eurasie, d'Afrique et des Amériques ont découvert l'existence d'une matière curieuse, à laquelle ils ont accordé des pouvoirs extraordinaires. Nous appelons ambre ce solide translucide qui ne se dégrade point, qu'on peut sculpter et polir facilement, qui flotte sur l'eau de mer, fond sur le feu et, une fois frotté à d'autres solides, les attire grâce à ses propriétés électrostatiques. Électrostatique, comme notre électricité, mais aussi comme le nom grec de l'ambre, électron. Plusieurs civilisations anciennes ont utilisé des résines dans leurs rituels pour les vivants et les morts, dans la fabrication des talismans ou des remèdes traditionnels. L'ambre leur promettait le salut et la santé, la fertilité, la victoire, le bonheur. Ces morceaux de lumière, symboles du soleil et de la vie, appartenaient à Sekhmet, la déesse à tête de lionne pour les Égyptiens, qui utilisait le copal importé de l'ouest, actuel Angola, ou du sud, en Somalie ou à Zanzibar. Ils étaient l'esprit du tigre pour les Chinois qui les récupéraient aux confins de la Chine actuelle, mais l'importaient aussi, au moins depuis la dynastie des Han, depuis le Myanmar et depuis la Baltique. C'est en effet l'ambre de la Baltique, de son nom latin le succinct, qui a été exporté dans tout le bassin méditerranéen et par l'intermédiaire des cadeaux diplomatiques jusqu'en Égypte et au cœur de l'Asie. Les longues chaînes de diffusion de cette mystérieuse matière ont fait naître des mythes sur ses origines du bout du monde. Avec l'expansion de l'Empire romain, certains auteurs latins, comme Pline l'Ancien, ont essayé de donner des explications rationnelles pour la matière comme pour son acheminement sur les rivages de la Méditerranée. C'est de cette matière fascinante que nous parlons aujourd'hui avec Anne Vial-Loger, maîtresse de conférences en langue, littérature et civilisation latine à l'Université de Rouen, conseillère scientifique HCERS, spécialiste de Pline l'Ancien et de littérature technique et scientifique à Rome. Les humanités dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Anne Vial-Loger, bonjour.
Bonjour et merci de me donner la parole.
Merci à vous de participer à ce podcast des humanités dans le texte. Nous sommes aujourd'hui à l'ENS, que vous connaissez bien, puisque vous avez été normalienne et vous avez donc fait votre parcours de latiniste dans ces murs. Je ne sais pas si le département des sciences de l'Antiquité était semblable à celui d'aujourd'hui.
Je ne devrais pas le dire, mais je suis la dernière génération de vieilles sévriennes. J'ai intégré Sèvres et je suis sortie d'Ulm.
Ah bon, et ben c'est très bien aussi. Et donc, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. On parlait à l'instant de cette matière aux propriétés fascinantes qu'est l'ambre et dont le nom grec électron a fini par désigner tout un pan de la technique et de l'industrie moderne aujourd'hui, celle de l'électricité. Pline ne pouvait pas imaginer quel allait être le destin de cette matière. Une matière fascinante aussi dans l'histoire. On connaît la chambre d'ambre de Catherine II. On connaît dans Jurassic Park le petit morceau d'ambre qui contient le moustique à partir duquel on va pouvoir prendre du sang de dinosaures et reconstituer l'ère jurassique au XXe siècle. Donc, c'est une matière qui a embrasé l'imaginaire des hommes et des femmes depuis toujours. Pourquoi nous en parler avec Pline l'Ancien ? Pourquoi est-il le bon interlocuteur ?
Alors, c'est vrai que Pline, par bien des aspects, est souvent un interlocuteur antique dédaigné, hein, parce qu'il écrit 37 volumes d'une histoire naturelle. Déjà, 37 volumes, c'est beaucoup. Il n'écrit pas dans une langue châtiée, alors qu'il savait très, très bien écrire, mais ceci est une autre question. En fait, il a le souci d'être utile, donc il explique qu'il va au plus pressé. Et Pline n'est pas un humaniste au sens de la Renaissance, ça n'est pas non plus un auteur du premier classicisme, comme Cicéron, qui est le créateur en latin du terme « humanitas », qui a donné notre humanité et qui a le double sens grec à la fois de « paideia », c'est-à-dire de culture, d'éducation et de philanthropia, donc qui a donné notre moderne philanthropie. Mais c'est véritablement un homme curieux de tout. Et vous avez même un manga de Marie Yamakasi, Pline, déjà 11 volumes, qui met cette dimension parfaitement en lumière. Elle le fait se promener dans tout l'Empire romain et noter avec acharnement tout ce qu'il trouve. Et par sa curiosité et son souci d'être utile, c'est un précurseur de l'encyclopédie. Et d'ailleurs, Diderot l'admirait énormément. Il s'est même fâché à un moment avec son ami Falconet, tellement il voulait donner à tort raison à Pline.
Alors là, vous nous faites voyager. Avant qu'on continue ce voyage dans l'encyclopédie, parce que donc on apprend qu'il y avait des encyclopédistes avant les Lumières, et Pline pouvait en être un, vous avez dit manga de l'Antiquité. On parle bien des bandes dessinées japonaises.
Absolument, il y a plusieurs mangas sur l'Antiquité romaine. Il y a Ad Astra, par exemple, sur les guerres puniques, Thermae Romae, toujours de Marie Yamakasi, Ad Astra, c'est un autre auteur. Vous avez vraiment de nombreux mangas, pas si nombreux que ça par rapport à la surabondante production, mais plusieurs mangas qui s'intéressent à cette civilisation et qui montrent d'ailleurs une connaissance assez fine des sources antiques. C'est une bonne entrée en matière.
Oui, c'est une bonne entrée en matière, absolument. Vous pouvez écouter ce podcast et en même temps, peut-être, aller dans votre librairie de quartier et acheter un manga et voilà, continuer de donner à l'Antiquité une façon, on va dire, plus agréable, plus moderne de vivre aujourd'hui. Donc, vous parliez de l'encyclopédie, parce que c'est très intéressant. Et alors, on sait, depuis Michel Foucault et peut-être avant lui, qu'il y a un lien intime entre savoir et pouvoir. Et généralement, les projets encyclopédiques sont des projets qui assoient un pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Pline, homme de savoir, homme de pouvoir ?
Alors, Pline est un personnage, effectivement, vous avez raison d'insister sur cette dimension, qui est un homme de pouvoir. C'est un personnage complexe et fascinant et on connaît très très peu de choses sur sa vie. Il est né, semble-t-il, vers 23-24 et il est mort en 79 dans l'éruption du Vésuve alors qu'il était préfet de la flotte à Misène. Il a donc pris la tête d'un commandement pour aller porter secours et il est resté sur place pour observer cette éruption parce que sa curiosité avait été éveillée. Donc, rien que ça, ça montre la portée du personnage. Mais il a fait carrière au service de l'État. Il le dit lui-même dans sa préface, c'est ce qui est le plus important. Et très jeune, par exemple, en 1947, il était tribun militaire sous les ordres de Corbulon, en Germanie. C'est une région qu'il connaît bien. Il est revenu par la suite à plusieurs reprises. Les diverses fonctions qu'il a exercées au service de l'État l'ont conduit en Gaule-Narbonnaise, en Espagne, en Adriatique. Il a arpenté une bonne partie de l'Empire, sauf sous Néron, où là, n'étant pas trop en odeur de sainteté, si je puis me permettre cet anachronisme, il en a profité pour se tenir tranquille et rédiger une vingtaine de volumes sur les guerres germaniques, totalement perdues, mais Tacite, qui vient juste après lui, s'en est largement servi, il le dit lui-même, pour composer son traité sur la Germanie. Parce qu'Arcine avait quand même rédigé une centaine de volumes, il ne nous reste que l'histoire naturelle, seulement 37 volumes.
C'est impressionnant. Et puisqu'il nous reste seulement ces volumes de l'histoire naturelle, prenons en soin et lisons tout de suite un extrait du chapitre 37 que vous avez choisi et traduit pour nous. Je me contenterai de lire la traduction française tandis que vous commencerez par le texte latin.
Certum est gigni in insulis septentrionalis oceani, et ab Germanis appellari glaesum, itaque et ab nostris ob id, unam insularum glaesariam appellatam, Germanico caesare res ibi gerente classibus, ostera viam a barbaris dictam.
Ce qui est certain, c'est que le succin est un produit des îles de la mer du Nord, appelées glaesum par les Germains, et pour cette raison, l'une de ces îles a été appelée Glaeseria par nos compatriotes au moment où Germanicus César dirigeait des opérations navales dans ces régions. Les barbares la nomment Osteravia.
Nascitur autem, defuente medulla pinei generis arborebus, ut cumis in Cerasis, resina in pinis erumpit, humoris abundantia.
Le succin naît de l'exsudation de la moelle d'une espèce de pin, comme la gomme pour les cerisiers ou la résine sur les pins en raison de la surabondance d'humeur liquide.
Densatur rigore vel tempore aut mari, cum ipsum intumescens aestus rapuit ex insulis, certe initora expellitur, ita volubile ut pendere udeatur atque nansidere in vado.
Il se solidifie sous l'action du froid, de la tiédeur ou de la mer, lorsque le gonflement de la houle l'a arraché des îles, et il est à coup sûr rejeté sur les rivages, en roulant de telle sorte qu'il semble en suspension et ne pas couler au fond.
Arboris succum esse etiam prisci nostri tredidere, ob id succinam appellantes.
Nos anciens ont aussi cru que c'était la sève d'un arbre, et pour cette raison l'ont nommé succin.
Adfertur Germanis in Pannoniam maxime provinciam, et inde veneti primum, quos enetos graeci vocaverunt, famam rei fecere, proximique Pannoniae et agentes circa mare Adriaticum.
Il est apporté par les Germains, principalement dans la province de Pannonie, d'où les Vénètes, que les Grecs ont nommé Énètes, ont été les premiers à en faire la réputation, étant voisins de la Pannonie et vivant autour de la mer Adriatique.
Pado vero, adnexa fabula est evidente causa. Odieque transpadanorum agrestibus feminis menilium vice succina gestantibus, maxime decoris gratia, sed et medicinae, creditur quipe tonsibis resistere et faucium vitiis.
La légende qui est liée au pot tient à une raison évidente, et aujourd'hui, les paysannes transpadanes portent du succin en guise de collier, voire aussi comme remède. On croit en effet qu'il agit sur les amygdales et les maux de gorge. Alors voilà un texte, Anne-Vielle Loger, que nos divisions disciplinaires modernes ont du mal à comprendre, puisque s'y mêlent des références géographiques, historiques, scientifiques, littéraires. C'est un texte assez chatoyant.
Oui, c'est tout à fait chatoyant, et encore, ce n'est qu'un très court extrait d'un passage bien plus long sur l'ambre. C'est un texte extrêmement complexe aussi, qui reflète au fond les divers intérêts de l'auteur. Le passage concerne bien l'ambre, et en même temps, il y a bien des choses en plus, d'une certaine façon. Ce texte est inhabituel chez Pline par sa longueur. Comme si Pline, qui sait qu'il parvient à la fin de son histoire naturelle, on est au début du 37e volume ici, avait à cœur de livrer tout ce qu'il peut avant d'en finir une dernière fois. Tout ce qui importe. Et d'une certaine mesure, ce qu'on voit bien dans ce qu'on vient de lire, c'est que tout lui importe, grâce à sa curiosité et à la façon dont il rapporte des éléments de connaissance. Donc pour nous aujourd'hui, il constitue souvent l'unique source et du coup une source absolument inégalée. C'est pour ça que tout le monde en général se précipite sur Pline et va le piller gentiment. Alors pour revenir à l'ambre lui-même, quand même le plus intéressant, c'est ce texte, enfin, l'ensemble du texte de Pline, est absolument central dans toutes les discussions littéraires, historiques, archéologiques qui portent sur ce sujet. Tout le monde part du texte de Pline, parce qu'il a été exhaustif justement, pour prouver le commerce de l'ambre de la Baltique vers la Méditerranée, même lorsqu'on parle de découvertes qui remontent à l'époque du Paléolithique, l'Aurignacien, c'est-à-dire plus de 30 000 ans tout de même avant Pline l'Ancien.
Alors oui, aidez-nous à comprendre un peu cette géographie de l'ambre, parce qu'on se situe là, sur les rives de la Baltique, donc dans le nord de l'Allemagne et de la Pologne actuelle. On est à quelle distance des frontières de l'Empire romain, de ce fameux limès, au moment où Pline parle ?
On est à l'extrémité absolue.
On est au nord. Là.
On est à l'extrémité du monde, dans les confins du nord, qu'on commence à connaître à ce moment-là. Pline a séjourné en Germanie, mais on n'en sait pas bien situé, parce que quand on parle des îles Glaisaria dont il a été question, en fait, on discute encore, on pense que ce sont plutôt des îles frisonnes. Et de même, l'ambre de la Baltique, on ne sait pas exactement ce que ça recouvre encore à ce moment-là. On commence à explorer ce monde. Les Romains, évidemment, et la Pax Romana ont toute leur importance. On sait qu'il y a des routes depuis l'Antiquité, mais même les archéologues ne sont pas d'accord. Quand les Grecs, les Phéniciens, les Égyptiens se procuraient de l'ambre, on a retrouvé de l'ambre, par exemple, dans la chambre funéraire de Toutankhamon. Donc ça circule, et de l'ambre, je parle bien d'ambre de la Baltique. Eh bien, certains archéologues se sont demandé si ça ne venait pas par des routes terrestres d'abord. On ne sait pas bien, on suppose, on ne sait pas.
Sur les plages de la mer Baltique, dans le nord de la Pologne, novembre rime avec chasseur d'ambre. Cela fait plus de 40 ans que Włodzimierz Janowski pêche cette précieuse résine fossilisée, surnommée l'or de la Baltique, du fait de sa couleur jaunâtre. Ramenée par les vents du nord-est vers la côte polonaise à cette époque de l'année, l'ambre peut rapporter très gros à ses pêcheurs locaux.
C'est une bonne journée. Celui-là, je vais le vendre à 80 zlotys. Ces deux-là, 50 chacun, et ce gros-là, ce sera au moins 150. Parfois, on peut gagner beaucoup plus. Si on trouve deux ou trois morceaux de 200-300 grammes chacun, ça fait tout de suite plusieurs milliers de zlotys, en un seul jour.
On entendait un reportage de 2012 de l'AFP sur l'ambre de la Baltique et la voix, 2000 ans après celle de Pline, d'un chasseur d'ambre polonais du XXIe siècle, avec en fond sonore la pièce pour chœur et orchestre « Wintern war hard, l'hiver fut rude » du compositeur finlandais Olis Salinen, interprété par le chœur de Tapiola. Nous sommes toujours avec Anne-Vielle Loger pour cet épisode des Humanités dans le texte consacré à l'ambre dans l'Empire romain. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces confins nordiques de l'ambre romain ? et sur la connaissance que Pline pouvait en avoir.
Pline connaissait bien ces territoires. Hein. Il les a arpentés, les territoires germaniques, à plusieurs reprises.
Dans le cadre de ses fonctions.
Dans le cadre
de administrateurs.
Dans le cadre de ses fonctions. Là, je fais référence aux études de Jean de Sange ou bien de Ronnoxheim sur la carrière de Pline. Et puis, depuis Auguste, il faut bien dire, depuis les Julio-Claudiens de manière générale, il y a une expansion romaine vers la mer du Nord et vers la Baltique. Donc, Rome étend ses réseaux commerciaux, si vous voulez, la Vax Romana, la fameuse paix romaine permet cela. On reprend, bien entendu, les routes qui ont déjà été ouvertes avant la conquête. Mais il semble, en tout cas c'est ce que la table de Peutinger, cette copie médiévale d'une carte romaine, dit, qu'il y a au moins une partie de la route de l'Angle qui a été ouverte seulement au 1er siècle. Donc là, Pline est en train d'actualiser aussi le savoir. Puisque la table de Peutinger indique que le tronçon entre la capitale de la Pannonie, Carnutum, sur le Danube, et Aquilée, sur l'Adriatique, est une voie romaine, par exemple. Donc l'information est actualisée. Encore une fois, c'est grâce à Néron que Pline passe plutôt sous silence, ou bien, parce que là c'est quand même difficile pour lui de le faire totalement pour l'homme, il déteste absolument Néron. Il va expliquer pourquoi Néron avait commandité cette expédition. C'était par son goût dépravé du luxe. Il voulait orner l'amphithéâtre et renouveler d'objets d'ambre qu'il souhaitait renouveler tous les jours. Ça ne va pas évidemment du tout aux yeux de Pline. Mais il n'empêche que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point, parce que Néron a commandité pas mal d'expéditions, hein, ici on parle de la route de l'An, mais aussi en Éthiopie, il voulait aller trouver les sources du Nil, etc. On voit à quel point la puissance romaine n'est pas qu'une puissance militaire, ou plus exactement, comment la puissance romaine est aussi une puissance politique et militaire, bien entendu, mais qui est mise au service du savoir.
D'ailleurs, en parlant de savoir, Pline essaye de formuler des explications des explications scientifiques, on pourrait dire, sur la nature de l'ambre. Il compile aussi des explications d'ordre mythique formulées par les Grecs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces explications ?
Alors, on peut dire que ces explications sont partiellement exactes. De toute manière, Pline le sait, il ne prétend pas être un scientifique. Et donc, il rapporte à la fois de mythes et des faits positifs quand il va décrire l'ambre ou bien, justement, quand il y a une actualisation des savoirs. Parce que l'ambre est très connue et a été connue d'abord, en fait, par des mythes, ce qui est un reflet de l'intense curiosité aussi qu'il suscitait. On a une tragédie perdue du poète Eschyle, 5e siècle avant Jésus-Christ, les Héliades, c'est un des mythes de l'ambre, et tragédie pas tout à fait entièrement perdue, mais presque entièrement, il reste quelques fragments du poète Sophocle, 5e siècle également avant Jésus-Christ, Méléagre. Ça correspond aux deux mythes, en fait, qui concernent l'ambre.
Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Rapidement, donc, le mythe des Héliades est lié à Phaéton le brillant, lui aussi, le fils du soleil et de Climène, qui avait emprunté le char de son père, les fameux coursiers du soleil, et qui, dans son inexpérience, a laissé les chevaux s'échapper. Et donc, on allait tout droit à la catastrophe. On nous dit même que si les peuples d'Éthiopie sont noirs, c'est parce qu'ils ont été brûlés par le char du soleil. Et donc, le soleil a foudroyé Phaéton pour l'arrêter. Et les sœurs de Phaéton, les fameuses Héliades, se sont mises à tellement le pleurer qu'elles ont été changées en peucliers. Et tous les ans, leurs larmes, en coulant, produisaient, dit-on, le fameux électrum au bord du fleuve Éridan, identifié par Pline au Pô. Électrum en grec, ça vient de élector, qui signifie brillant. Quant à Méléagre, c'est à peu près le même schéma. C'est aussi un héros grec qui participe à la chasse contre le fameux sanglier de Calydon, qui ravage toutes les cultures. Comme il s'éprend à l'occasion de cette chasse de la jeune Atalante, qui faisait partie de l'équipe de chasseurs, il lui accorde, une fois le sanglier tué, une récompense, ce qui met en rage deux de ses oncles. Comment une part d'honneur peut-elle être donnée à une jeune fille ? Et qui arrache donc du coup la récompense à Atalante. Et Méléagre l'aimait à mort, et à son tour, il va être mis à mort par sa mère Altée. Et du coup, les sœurs de Méléagre, on retrouve hein, le schéma, dans leur chagrin, vont être changées en pintade, Méléagrides, par la déesse Artémis qui les prend en pitié tellement elles sont en train de pleurer leur frère.
Ambre des mondes mes plus beaux rêves, l'image adorée que j'ai vue sans trêve. Toi qui t'enfuis quand le jour se lève, ombre, j'espère encore. Chaque soir dans notre chambre, parfum monte en moi grisant et tendre, réveillant l'amour des fins. Ô toi qui passes un instant à peine, semant à plaisir l'amour et la haine, seul pour toujours et malgré ma peine, ombre, je t'aime encore.
Le mythe, c'est une explication du monde, souvent une explication cosmique, mais c'est une tentative d'expliquer aussi rationnellement des phénomènes que l'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, dans l'extrait que nous avons lu, Pline condamne Sophocle. Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'il nous parle des fictions des poètes, à un autre endroit, ce qu'il conteste ici, ça n'est pas tant le mythe en lui-même que les connaissances géographiques erronées qui sont véhiculées à cette occasion. C'est ça qu'il critique, ce n'est pas le mythe.
On s'approche de la fin de ce podcast, mais on n'aimerait pas vous quitter sans parler de vos autres occupations universitaires. Vous avez publié beaucoup et vous avez récemment publié un livre collectif aux éditions Ausonius en 2022 qui s'intitule « L'inventaire du monde de Pline l'Ancien ». Comment est-ce que vous pourriez encourager ceux qui nous écoutent, les jeunes qui choisiront leur formation bientôt, à s'intéresser aux humanités classiques, à lire Pline encore en latin ?
Alors, je ne vais pas dissocier les humanités et les humanités classiques et Pline, en fait. Je dirais que le thème humanité a fait un retour en force ces dernières années, depuis le XXIe siècle, en gros sous l'influence des anglo-saxons qui ont un usage bien plus répandu que nous. Et d'ouvrages aussi, comme ceux de Milad Doui pour un humanisme numérique ou de Martha Nussbaum, spécialiste de philosophie antique, qui, dans son livre, par exemple, son petit livre sur les émotions démocratiques, comment former le citoyen du XXIe siècle, plaide pour une éducation à la littérature et aux arts qui développe l'esprit critique. Les humanités classiques, c'est un terme d'acception plus récente, dont on considère grosso modo qu'il correspond à ce que les anglo-saxons appellent plus communément classics. C'est-à-dire que c'est un effort pour décloisonner les savoirs antiques que l'université française découpe historiquement en langue, histoire, histoire de l'art et archéologie. Donc dans des cursus différents à l'université, ce qui évidemment est aberrant, puisqu'on peut, pas toujours, hein, mais on peut ainsi suivre des cours d'histoire ancienne ou d'archéologie à l'université sans faire ni latin ni grec, et inversement, étudier la langue sans étudier de manière approfondie le contexte ou l'histoire de l'art. Bon, je ne vais pas développer là-dessus parce que ça nous emmènerait dans une trop longue discussion. Pour ce qui est de Pline lui-même et de son intérêt, dans les humanités classiques, voire les humanités numériques. Je dirais que les humanités classiques et les humanités de manière générale nous permettent, et je crois que c'est très important, de nous situer dans le temps, en nous confrontant à d'autres que nous. Elles permettent aussi, et c'est un point de vue que je considère comme très important également, et ce texte en est une manifestation, même si on n'a fait que l'effleurer, une épistémologie de la connaissance. Restituer les étapes de la connaissance, et surtout ne pas croire d'ailleurs qu'on arrive à notre époque en ayant d'autres choses à connaître, mais en ayant mis un point final à des connaissances. Je vais donner juste un exemple très court, si vous permettez. Pline parle à un moment, donc au 1er siècle après Jésus-Christ, de l'influence de la lune sur les marées. Nous savons tous que c'est vrai. Oui, mais Francisque Sarcey, critique littéraire bien connu, donnait comme preuve du caractère arriéré des paysans bretons fin 19e, début 20e siècle, puisqu'il croyait même que la lune avait une influence sur les marées. Donc parfois, on revient en arrière. La connaissance n'est pas acquise, il faut, vous l'avez dit, Émile Gayousso, être humble devant cela. Et enfin, je dirais que Pline est à la fois émerveillé devant la nature, et c'est très moderne d'une certaine façon, et émerveillé devant ce qu'il ne comprend pas, ce qui est le point de départ pour lui, le déclencheur de la connaissance. Donc il est à la fois moderne par cela. Il est aussi parfaitement anti-moderne, hein. C'est pas un féministe ardent, par exemple, comme tous les Romains. Et puis, c'est pas un consommateur non plus. Il décrit les objets, mais il va surtout pas les consommer. Quant à l'étudier, eh bien, son latin demande évidemment un gros effort. Ça n'est pas Tacite, par exemple. Ça n'est pas non plus un poète avec de la mythologie. Et on ne peut pas le proposer d'emblée à tous les étudiants. Alors, de ce point de vue-là, je dois dire que j'ai mis en place une stratégie qui consiste à aborder Pline avec mes étudiants plutôt en français et à le commenter en faisant référence systématiquement au texte latin, de façon à saisir ce qu'il y a de propre à sa pensée, on pense toujours dans une langue, à travers les choix de termes opérés, ce qui revient par ailleurs, etc., mesurer l'écart de la traduction. Et c'est aussi en mesurant finalement ce que la traduction nous apporte, mais ce qu'elle nous fait manquer, qu'on peut mieux, à mon sens, comprendre la nécessité d'accéder à une civilisation par ces textes de toute nature, hein, l'épigraphie, les textes funéraires aussi, les monnaies, il y a un podcast là-dessus, par ces images aussi, et susciter le désir de cet hôte qui, en fin de compte, est aussi un peu nous-mêmes.
Anne Vial-Loger, merci beaucoup d'être venue nous rendre visite aux Humanités dans le texte.
Merci à vous.
J'espère que ce podcast aura contribué à rendre l'effort un peu moins coûteux pour se confronter à la matière du texte de Pline. Tout au long de ce programme, vous avez pu entendre différents extraits musicaux. Un morceau composé par le compositeur et youtubeur suisse Adrian von Ziegler en hommage à la civilisation de la Rome antique, Aetas Romana, l'âge de Rome, qui accompagnait la lecture du texte de Pline. J'ai déjà mentionné la pièce pour chœur et orchestre d'Olis Salinen, Wintern war Hard. Enfin, le deuxième intermède musical rendait hommage à l'ambre sous une autre de ses formes, celle du prénom. Et c'est la voix veloutée du prince de la chanson André Claveau, crooner un peu oublié des années 50, qui l'interprétait. Ce podcast vous a été présenté par Émile Gaillozo, responsabilité scientifique en Cadane, et on se quitte en musique, comme d'habitude, avec les Dédales de Carole Beffa.